Que le Seigneur soit béni pour ces projets justement qu'on va aborder ce soir. Dieu a des projets. C'est beau ça, non? De voir que dans les derniers jours, dans les temps difficiles, dans des temps compliqués, Dieu a des projets. Il l'a dit le Seigneur à Zacharie, il l'a dit à Zorobabel, il l'a dit, celui qui a commencé son œuvre, il la poursuivra. Nous voulons lire quelques versets de la Bible qui nous montrent que Dieu a des projets. Dans Jérémie au chapitre 29, pourtant le livre de Jérémie c'est un livre très très difficile, vraiment difficile. On voit vraiment la souffrance du peuple de Dieu, la souffrance de Jérémie, et même l'affliction de Dieu dans ce livre, et même dans un livre où Dieu est obligé d'exercer eh bien, des épreuves pour ramener son peuple à lui. Regardez ce que Dieu dit. Jérémie chapitre 29, verset 7. C'est extraordinaire de voir combien Dieu est capable de changer le mal en bien. Jérémie 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel, du sien. » Verset 10. « Voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et tout le monde dit Amen. Dans des moments très difficiles, semblables aux nôtres. J'aimerais que nous lisions un autre texte dans 1 Pierre au chapitre 3. Un texte qui est rempli d'exhortations par rapport à notre comportement. C'est important de savoir ce que nous avons à faire dans toute chose, mes frères et sœurs. Vraiment, si vous ne lisez pas la Bible, vous devez être très malheureux parce que vous n'aurez jamais la perception de la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne peut pas connaître la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 3, au bout de tout un tas d'exhortations où il nous a demandé de nous comporter comme il le faut, au verset 8, 1 Pierre 3, 8, il dit « Enfin, donc au-delà de toutes ces exhortations, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. » Au fait, est-ce que ça vous intéresse ce verset? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer la vie et voir des jours heureux? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il poursuive la paix, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors vous gardez ce texte s'il vous plaît et vous venez avec moi dans l'Apocalypse au chapitre 12 où il y a un verset terrible qui nous rappelle combien il y a un combat, on pourrait dire, de chaque instant. Vous le savez, ça, qu'il y a des combats, des moments difficiles. Apocalypse, chapitre 12, c'est écrit, il faut que nous le sachions, et il y a un élément de réponse. Apocalypse 12, verset 10, « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. » L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Ce verset nous en dit long. L'ennemi s'appelle l'accusateur des frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accable Dieu, il essaie du moins, jour et nuit de nous accuser. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un combat? Il y a un combat, vous le savez, il y a des moments difficiles, on le sent des fois avant d'aller à une réunion. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un combat avant d'aller à une réunion de prière? Comme par hasard, une fatigue sur... Vous séparez? Comme par hasard, on est fatigué, il faudrait aller au cinéma, là on serait en super forme. On serait en super forme, ça va nous faire vachement de bien. Mais pour aller à la réunion de prière, tout d'un coup, est-ce que c'est pas vrai? Passer à des combats. Et on voit bien dans ce texte que l'ennemi s'appelle l'accusateur des frères jour et nuit, c'est pas de temps à autre, un jour par-ci, un jour par-là. Il y a un combat qui s'achèvera que lorsque nous partirons de cette terre. Nous le savons, ça nous permet de veiller. En même temps, même s'il y a un combat, nous voyons que Dieu a des projets. Gloire à Dieu. Moi, je suis émerveillé parce que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps compliqués, la colère de Dieu approche, la misère va venir sur la terre, un chaos va s'installer sur la planète entière lorsque l'Église sera enlevée, mais tant que la porte n'est pas fermée, eh bien Dieu nous promet que nous pouvons hériter la bénédiction. Est-ce que ça vous intéresse, la bénédiction ? Vous le croyez au fait ? On va le relire ce verset de Pierre. J'aimerais que nous le lisions mais consciencieusement. Parce que quand même, c'est écrit, mes frères, et c'est la volonté de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je ne sais pas où nous en sommes de nos combats, parce qu'il y en a des combats avec nous-mêmes déjà. Est-ce qu'on peut avoir des combats intérieurs ? Déjà, on en a, déjà avec nous-mêmes des fois. Ça vous est jamais arrivé de dire, mais que je suis bête. Regardez, ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal. Pourquoi passer à des combats ? Déjà, on en a à l'intérieur de nous-mêmes, mais on peut avoir des luttes avec des frères, des luttes avec des gens dans le monde. On accepte facilement les combats avec les gens qui sont dans les ténèbres. On a plus de difficultés avec les frères ou avec les sœurs, oui ou non ? C'est plus difficile d'avoir des combats, par exemple, dans l'église. Mais est-ce que ça peut arriver qu'on ait un combat avec un frère? Oui, ça peut arriver. Et j'aimerais justement qu'on lise ce texte, parce que même David, qui était un homme de Dieu, dans un psaume, il est en difficulté avec un de ses frères. C'est terrible, ça. Psaume 55, versets 13 à 15. C'est des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre à pardonner. Et de pas apprendre à nous venger. Il y a des chrétiens. Hier, il y a une dame qui m'a appelé. Écoutez bien, non, mais deux dans la semaine. Deux chrétiennes qui m'ont appelé, je les connais pas, qui avaient un conflit avec une personne depuis 20 ans. Les deux, 20 ans. Et j'ai dit, mais ça fait 20 ans que vous avez pas d'assurance quand vous priez. Ben non, j'ai pas d'assurance. Parce que vous n'avez pas pardonné. Ou demandé pardon, ça vous prendra une minute. Une fois que j'ai raccroché, vous envoyez un texto à la personne, je te demande pardon pour ce qui s'est passé entre nous, et c'est terminé. Elle me dit, on est vraiment aveugle. 20 ans. Et je vous assure que dans notre entretien, je voyais que c'est une femme qui aimait Dieu de tout son cœur. On laisse traîner les choses, on rend le mal pour le mal, et ça peut arriver même dans le cadre d'une église. Et regardez ce que David dit, donc, psaume 55, verset 13, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Un ennemi, c'est normal. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Il y a un conflit avec un frère, un ami, avec qui il y a eu des difficultés. Et le Seigneur est catégorique, il nous dit « ne rendez pas le mal pour le mal ». Ne vous vengez pas. On revient dans 1 Pierre, il y a des exemples. Dieu nous a donné un exemple. Dans 1 Pierre, vous avez remarqué la parole, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette parole, à cette expression qui revient souvent dans la Bible, enfin souvent, plusieurs fois, 1 Pierre 3, verset 9, il est dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. L'appel, vous savez ce que c'est l'appel ? C'est la volonté de Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés. On le voit plusieurs fois dans la Bible, c'est à cela que vous avez été appelés. Par exemple, juste avant, au chapitre 2, regardez ce qu'il est dit, verset 20. C'est pour que vous compreniez bien qu'il y a des choses qui correspondent à la vocation, à l'appel. L'appel, c'est la vocation. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? C'est sûr que si vous prenez un PV parce que vous avez roulé à 180, est-ce que c'est normal ? Mais oui, c'est normal. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et, verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Ah bon ? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Regardez bien ces versets. Moi, je pense qu'on devrait les méditer souvent. Donc, souffrir, ça fait partie de l'appel, ça c'est normal, c'est la vie. parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissa un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est quoi l'exemple? Alors, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne se trouvait point de fraude, lui qui injuriait, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous voulez que Dieu s'occupe de tous vos problèmes? Même Jésus. Est-ce que Jésus aurait pu s'occuper de tous ses problèmes lorsqu'il était injurié, lorsqu'il était maltraité? Mais bien sûr, il ne l'a pas fait. Il s'en est remis à celui qui juge. Mes frères et sœurs, si vous voulez que Dieu s'occupe de tous vos problèmes, ne vous en occupez pas. Même si on vous maltraite, même si c'est un ami, même si c'est des gens que vous avez aimés, remettez tout ça au juge. Et ça, c'est une question de confiance, parce que je peux vous le dire, vous dites oui, d'accord, mais c'était à ma place. Écoutez-moi, je ne suis pas à votre place, vous n'êtes pas la mienne, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, et nous devons tous comprendre que c'est à cela que nous avons été appelés. Ça fait partie de notre vocation. J'ai subi telle injustice, eh bien je m'en remets au Dieu qui fait justice. C'est à cela que vous avez été appelés. Christ nous a donné un exemple. Il y a des gens, des chrétiens qui sont tout le temps fraudes. Cette dame dont je vous parlais hier, 20 ans, alors que ça lui a pris une minute, elle me dit, Monsieur Gauche, je réalise que ça va me prendre une minute d'envoyer un texto pour demander pardon pour ce qui s'est passé. En tous les cas, elle a perdu 20 ans, et pendant 20 ans, elle n'avait pas, quand elle priait, elle ne savait pas si Dieu entendait. Pourquoi? Mais parce que quand on ne pardonne pas, eh bien, Dieu n'agit pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous connaissez ces paraboles où le Seigneur nous montre que lorsqu'on ne pardonne pas, eh bien c'est comme si on était où? En prison. C'est écrit ou c'est pas écrit? Vous connaissez un jour quand Jésus parle de qu'il sera là au milieu de nous et qu'il faut pardonner, et puis Pierre qu'il est encore légaliste. Vous savez, le légalisme, c'est un fléau dans les églises, ça. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et Pierre dit, mais pardonnerai-je cette fois mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et Jésus dit, non, c'est pas 7 fois, c'est 70 fois 7 fois, 490 fois par jour. Pardonner une personne 490 fois par jour, déjà il faut compter. Mais je veux dire, c'est que le gars, il est vraiment compliqué quand même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pardon est continuel. Et le pardon doit être continuel. Et il donne une parabole d'un gars qui avait une grosse dette et qui a été pardonné parce qu'il pouvait pas la remettre. Et puis il rencontre dans la rue quelqu'un qui lui donne une petite somme et il va se mettre en colère. Et quand le maître va la prendre, il va le faire mettre en prison. Et Jésus dit, c'est ce qui arrive à tous ceux qui ne pardonnent pas. Quand on ne pardonne pas, eh bien, on n'est pas exaucé. On n'est pas béni. Et là, Dieu nous dit, voilà, moi j'ai des projets. Vous savez, c'est extraordinaire quand même quand Dieu peut nous parler et nous dire, voilà, quoi que ce soit qui se passe, moi j'ai des projets de paix pour tous mes enfants. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Moi je dis amen. Parce que je sais que c'est vrai. Et quand si vous lisez le livre de Jérémie en entier, quand vous arriverez au chapitre 29, vous direz, ah ben je comprends ce que M. Gouy voulait dire. Je comprends ce qu'il voulait dire. C'est vrai qu'il y a des temps. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Mais Dieu dit, voilà, vous me prierez, vous m'invoquerez. Moi, j'ai des projets de paix. Dieu a des projets de paix. Dieu a des projets de bonheur. C'est vrai que l'ennemi, je le répète, c'est un accusateur tout le temps en train d'essayer de nous décourager. Peut-être que vous savez pas ce que c'est le découragement, mais c'est quelque chose de diabolique, le découragement. Et Jésus l'a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous devons prendre courage. Comment prendre courage? Eh bien, en nous plongeant dans la présence de Dieu, comme on le fait ce soir, en disant, Seigneur, moi j'ai besoin d'une parole. À quoi je suis appelé? Voilà, quelle est ta volonté? Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Quelle est ta volonté? C'est sûr que quand vous lisez, c'est à cela que vous avez été appelé. Oui, je suis appelé à souffrir, ça peut arriver. Jésus a souffert. Eh bien, quand il était injurié, quand il était maltraité, il s'en remettait à celui qui juge. Vous trouvez pas ça formidable? Ça vous est déjà arrivé qu'on vous maltraite, qu'on se moque de vous, qu'on vous insulte? Comment vous réagirez si on vous insulte? Si demain au travail, vraiment on vous insulte, qu'est-ce que vous diriez? Attends, viens me le dire en face. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez? Non, mais il y a des chrétiens qui réagissent pire que les païens. Hein, c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut hériter de la bénédiction? Dieu bénit. C'est comme ça. Dieu, il est là pour bénir. Il est là pour nous rebénir. Il est là pour nous rappeler des choses qu'on n'a peut-être pas comprises, des choses qu'on a besoin de vraiment saisir. C'est à cela que vous avez été appelés. Jésus vous a donné un exemple. Et Dieu nous éprouvera. Vous voyez, David, c'était quelqu'un, David. Et pourtant, il dit, mais moi, cet ami, on allait ensemble, on chantait ensemble, on allait ensemble à la maison de Dieu. Et vraiment, il m'a outragé. Et il s'en remet à Dieu. Si l'on vous a fait du mal, si l'on vous a outragé, si l'on vous a maltraité, si l'on vous a critiqué, bénissez la personne. Vous entendez? Bénissez-la. Et faites-le de tout. Quand vous priez pour elle, vous la bénissez. Et déjà, ils ne savent pas ce que ça veut dire bénir. Vous l'avez lu ce verset? Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Il y a une personne qui vous a fait du mal. Eh bien, tous les jours, Seigneur, je veux te bénir, Seigneur. Et je la bénis. Seigneur, je te prie pour cette personne. Fais-lui grâce. Eh bien, Dieu vous bénira. Ça vous convient? Mais vous le croyez, en fait, ou vous ne le croyez pas? Vous dites, celui-là, moi, je ne peux pas le supporter. Il y a des gens qui changent d'église à cause de problèmes comme ça. Il y a des gens qui ont de la haine dans le cœur. Ils sont en prison. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'enseigne, c'est Jésus. On va le lire parce qu'il y a des gens qui ne le réalisent pas tellement c'est grave. C'est dans Matthieu 18. Regardez ce qui se passe lorsque quelqu'un ne pardonne pas. Si vous ne pardonnez pas, c'est exactement comme si vous étiez en prison. Matthieu 18. Mais mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un ce soir qui n'a pas ses prières exaucées parce qu'il a de la haine dans son cœur, parce qu'il a de la colère dans son cœur, parce qu'il est en rage contre un frère, contre une sœur, contre un père, une mère, un frère, un ami, même un ami. Il m'a trahi, franchement. Il a colporté ça. J'avais fait confiance. Il a tout cafardé. Ça vous est jamais arrivé que quelqu'un rapporte des trucs que vous aviez confiés? Ou que tel pasteur vous ait blessé? Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Plein de choses. Et regardez, Matthieu 18, c'est la fin. Vous pourrez la méditer, cette parabole. Mais regardez, verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, une dette de plusieurs millions d'euros. Je t'avais remis en dette ton entier parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Écoutez-moi bien, on ne va pas tourner autour du pot. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes malheureux. Si vous ne pardonnez pas, vous êtes en prison. Même si vous avez raison, même si la personne vous a vraiment blessé, même si la personne vous a vraiment fait du mal, même si elle vous a vraiment, je ne sais pas, volé, spolié, je ne sais rien. Tout le mal qu'on ait pu vous faire, Jésus nous a donné un exemple. Sur la croix, on l'a crucifié. Vous savez tout ce que Jésus a subi avant qu'il ne soit crucifié. Et la première parole qu'il prononce sur le bois de la croix, c'est une parole de pardon. Père, pardonne-leur. Et nous devons choisir cet exemple pour entrer dans ces projets. Vous savez, on dit longtemps qu'on n'avait pas chanté. Je veux servir les projets de Dieu dans ma génération. Il est beau ce cantique, hein? Je veux servir les projets de Dieu dans ma génération. Vous vous rendez compte? Dieu a des projets. Des projets, je le répète. Des projets, et Dieu bénit. Il dit, bénissez afin d'hériter la bénédiction. On serait étonné ce soir si on prenait un papier et si je vous disais combien de personnes vous ont fait souffrir, combien de personnes vous ont blessé, combien de personnes vous ont attristé. Si vous en souvenez pas, c'est que tu as pardonné. Ça, c'est sûr. Les gens qui n'ont pas pardonné, c'est là, c'est un cancer, c'est un poison dans le cœur. C'est une prison. Alors, je dis ça, c'est volontaire, parce qu'on a tous subi nos luttes, nos combats. Même Jésus le Maître, il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils se sont moqués de moi, ils se moqueront de vous. Parce qu'il y a une opposition entre la vérité et les ténèbres, entre le diable et le Seigneur Jésus. Et nous devons dire, moi je ne veux pas être en prison, moi je veux sortir de cette église ce soir, en étant libéré de ces chaînes, en étant libéré de cette prison, je veux bénir, je veux faire du bien autour de moi, je veux utiliser ma vie, comme on l'a chanté, pour faire du bien, je veux bénir. Si vous ne bénissez pas, vous maudissez, et si vous maudissez, vous serez maudit. Ce sont des lois bibliques. L'homme qui met sa confiance en Dieu, il est béni. Bénisse, ça veut dire, alors il y a trois mots exactement pour le mot bénir. C'est prier. Quand vous priez, vous bénissez. Seigneur, je te prie pour ce pays. Je te prie pour les églises de ce pays. Vous bénissez le pays. Vous le faites, ça, de prier pour le pays? Voilà. Dès que vous priez, Seigneur, je te prie pour le président de la République, je te prie pour le premier ministre. Voilà. Vous obéissez à ces commandements. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de critiquer. Et il a fait ça. Et il avait promis ça. Et c'est un ceci, c'est un cela. Vous maudissez. N'attendez pas la bénédiction. Si vous critiquez, si vous maudissez, vous ne serez pas béni. Vous pouvez dire, Seigneur, bénis-moi. Vous pouvez répéter 30 fois, 300 fois par jour, Seigneur, bénis-moi. Ça ne marchera pas. Par contre, si vous bénissez, quand vous bénissez, quand vous priez pour un pays, quand vous priez pour votre famille, quand vous priez pour vos ennemis, c'est écrit « aimez vos ennemis ». Est-ce que c'est écrit ? Qu'est-ce que ça veut dire « aimez vos ennemis » ? Ça veut dire que vous allez les voir, vous allez les embrasser, leur faire des bisous partout ? Non, vous priez pour eux. On ne va pas jouer les hypocrites. Hein. Mais on prie pour eux. Seigneur, je te prie, tu vois cette personne, elle m'a fait du mal. Et je la bénis en ton nom. Vous le croyez ça ? Moi, je vous avais raconté une fois une histoire. Quand j'étais jeune pasteur à Grouillé, quand j'étais arrivé, il y avait une femme qui ne pouvait pas me supporter. Pourquoi ? Parce que comme j'étais venu, c'est comme si moi, j'avais cherché l'ancien pasteur. Elle ne me supportait pas. Elle faisait que me critiquer. Et les gens, comme ils sont intelligents, les gens, ils m'appelaient. Ils me disaient, tu sais, enfin, vous savez, monsieur Gros, telle personne ne fait que vous critiquer. C'est pas bien, mais non. Et un jour, il y a un pasteur qui m'a téléphoné pour me dire, eh bien, vous savez, monsieur Gros, elle fait que vous critiquer, cette femme. Et je me suis levé. Je connais la Bible. Je me suis levé, j'ai dit, je vais aller lui parler, moi. Je vais lui parler. Je me lève, je pars de mon bureau, et j'arrive à l'angle du bureau, et je sens que c'est pas bien. Vous savez ce que c'est. Et je me suis mis à genoux, et ce verset est venu à mon cœur. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et je me suis mis à genoux, Seigneur, j'ai dit, je la bénis. Je serrais un peu les dents, parce que ça serait du mal à sortir. Seigneur, je la bénis. Vraiment, je lui fais un serrant les dents. Seigneur, je bénis Madame Untel. Je la bénis, Seigneur. Je ne la pensais pas. Mais j'ai dit, Seigneur, je l'ai fait tous les jours. Et tous les jours. Après, je le faisais de bon cœur. Elle venait plus à l'église, puisqu'elle avait appris que je le savais, tout ça. Donc, elle avait honte, elle venait plus à l'église. Deux ans après, donc pendant deux ans, tous les jours, j'ai prié pour elle. Elle m'appelle. Elle me dit, Monsieur Gou, je voudrais que vous veniez boire le thé à la maison. J'aimerais discuter avec vous. Je voudrais mettre les choses au point. Tatati. Elle avait une grande maison. Elle avait des salons et tout. Une femme qui était aisée et tout. Elle me fait rentrer. Elle me dit, rentrez dans la maison. On va aller boire le thé. Ah mais attendez, je vais vous amener dans un autre salon. Elle m'amène dans un salon. Voilà, monsieur Gauss, ce que je vous ai acheté. Elle m'avait acheté un manteau. Moi qui n'avais pas d'argent à l'époque, on avait un petit salaire. Un manteau, un blouson, des chemises, deux costumes. Et de suite, le verset venait à mon esprit. Bénissez. Afin d'hériter la bénédiction. Et puis on a parlé, on a prié, et cette femme, elle est toujours au Seigneur, elle est toujours fidèle. Gloire à Dieu. Quand vous bénissez, c'est vous qui héritez la bénédiction. Et c'est écrit, Dieu veut qu'on le sache. Il faut que nous comprenions ces choses. Et l'ennemi, je le répète, c'est un accord. Il veut jour et nuit que vous ne bénissiez pas. Il veut que vous vous vengiez. Il veut que vous râliez. Il veut que vous murmuriez. Il veut que vous rendiez le mal pour le mal. Il veut que vous disiez, voilà, cette personne m'a fait du mal. Et bien moi, je dis jamais qu'elle elle peut toujours compter si elle m'appelle. Mais si un ennemi vous appelait tout à l'heure, je suis en panne sur la rocade. Est-ce que tu peux venir? Qu'est-ce que vous feriez? Ah, je peux pas. Moi, tu es en panne aussi. En plus, il y a des gens qui mentent. Moi, j'ai vu des chrétiens mentir, pour etc. Je peux vous dire que le mensonge, ça fait obstacle à la prière. Et c'est un cercle vicieux qui nous entraîne et surtout qui nous éloigne de Dieu. C'est pour ça qu'on a bien fait de chanter « Mon Dieu, plus près de toi ». Je veux que tu me parles, je veux lire ta parole, montre-moi tout ce à quoi je suis appelé. Quand vous relirez le Nouveau Testament, arrêtez-vous toutes les fois où il est question de faire quelque chose à laquelle on est appelé. Nous sommes appelés dans la souffrance. Eh bien, à tout remettre au Seigneur. Eh bien, je vais le faire. Seigneur, tu me justifieras sur la terre ou dans les cieux. C'est pas grave. Le procès de Jésus, au fait, est-ce qu'il était juste? Non, mais le procès de Jésus, sur toute la ligne, tout est faux. Déjà, par exemple, un procès de nuit, c'était illégal. Vous voyez, il a été jugé de nuit, tout le monde n'a rien dit. C'était illégal. Et Jésus aurait pu dire, oh, papa, vous n'avez pas le droit de me juger la nuit, etc. Tout le procès de Jésus est illégal. Jésus n'a rien dit, il a tout accepté. Et franchement, si la cause de Jésus n'a pas été réglée, si la nôtre n'est réglée qu'au ciel, vous croyez que c'est grave? Non, c'est pas grave. Dieu, il sait exactement quand notre cause doit être réglée. Mes frères et sœurs, Je ne sais pas où vous en êtes, mais une chose est sûre. Le diable, c'est un accusateur. Il fera tout pour que vous vengiez, pour que vous maltraitiez les autres, pour que vous critiquiez les autres. Et Dieu vous rappellera que quelqu'un qui pardonne, il n'est pas en prison. Quelqu'un qui pardonne, il est libre. Quelqu'un qui pardonne, eh bien, il entre dans des projets que Dieu a pour lui. Gloire à Dieu. Dieu a des projets de paix, de bonheur, pour vos enfants, pour votre foyer. Dieu a des projets. Comment il les accomplit ? Il est souverain. Vous croyez qu'il est souverain ? Il peut tout. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Vous avez vu comment Jésus est venu sur la terre ? Il y a plein de croyants qui ne le croient même pas. L'histoire de l'incarnation. Que le Seigneur est venu par la puissance du Saint-Esprit dans le corps de Marie. Tout ça, ça fait rire les gens. Ça fait même rire les chrétiens. Mais moi, je peux vous dire que Jésus, il est né sans le secours d'un homme. Par la puissance du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Je connais les projets. Il les connaît mieux que vous. Vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu ? Je connais les projets que j'ai préparés pour vous. Bénissez, d'ailleurs, recherchez le bien de la ville. C'est quoi ? Vous bénissez Toulouse ? Ou vous maudissez Toulouse ? On l'a lu tout à l'heure ? Recherchez le bien de la ville. Qu'est-ce que je vais faire ? Recherchez le bien de la ville. Eh bien, tiens, en plus, dans l'église, on nous donne des évangiles. Eh bien, je vais en avoir toujours dans ma sacoche, dans mon sac, dans ma boîte à gants. Si je peux donner un évangile, je vais prier pour cette ville. Tous les jours, je vais prier pour Monsieur Moudin, pour le maire de cette ville. Je vais prier pour le conseil municipal de cette ville. Écoutez, moi, je ne sais pas comment vous concrétisez ces versets. Recherchez le bien de la ville. Il y a des gens qui disent, ouais, cette ville, elle est pourri, il y a plein de gens malhonnêtes. Mais ça ne vous regarde pas, ça. Ce qui vous regarde, qu'est-ce que Dieu me demande ? Recherchez le bien de la ville. Seigneur, tu m'as pour mes études, tu m'as amené à Toulouse. Vous pourriez être à Bordeaux, vous pourriez être à Montpellier, vous pourriez être à Pointe-à-Pitre ou ailleurs, ou dans les îles, hein, à Fort-de-France, etc. Dieu vous a mis là. Ce soir, vous êtes là. Tu m'as placé à Toulouse, eh bien je rechercherai le bien de la ville. Je prierai pour cette ville. Est-ce que vous comprenez ? Il ne faut pas lire. Il y a des gens qui lisent, mais ils ne mettent rien en pratique. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient rien. Ils voient des promesses extraordinaires. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Eh bien, je vais bénir mon église. Je vais bénir ma famille. Je vais bénir mes parents. Vos parents, c'est peut-être pas facile. Il y a des gens, il faut voir comment ils parlent de leurs parents. Ouais, ma mère, elle, c'est une folle, la vieille, elle est complètement folle. Et alors, bénissez vos parents. C'est écrit, maudit soit celui qui maudira son père ou sa mère. Est-ce que c'est écrit ? Mais si vous maudissez vos parents, si vous parlez mal de vos parents, ils peuvent avoir un problème. Dit oui, ma maman, elle a telle maladie, priez pour elle. Voilà, ça, c'est la bénir. C'est pas toujours facile, mais moi, je veux bénir mes parents. Je veux prier pour mes parents. Ils se moquent de moi parce que je suis chrétien, ça fait rien. Je veux prier, bénir mes parents. Mes frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. Hein ? Moi, je suis choqué de voir la quantité de chrétiens qui n'ont rien compris à la parole et qui sont tout le temps en train de parler mal de la ville, parler mal du pays, parler mal du président. Et ils sont tombés en prison, ils sont dans les griffes de l'ennemi, dans l'accusateur des frères. Mes frères et sœurs, Dieu a des projet, alléluia, pour les églises, pour les frères. Et quand un homme rentre dans ce projet, vous rappelez comment Dieu a parlé à Zacharie, à Zorobabel, qui était inquiet. Il a dit, mais qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Mais qu'est-ce que tu t'occupes pas des problèmes ? Moi, je m'en charge. Sois ce que je te demande d'être, et moi, je m'occupe des montagnes.
Gloire à Dieu. Vous savez, les montagnes pour Dieu, il les a créées. Je veux dire, il peut les aplanir.
Les problèmes, il peut s'en charger de tous les problèmes. Bénissez. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Mes frères et sœurs, apprenons à bénir. Apprenons à faire du bien. Alors, je termine. Bénir, c'est prier. C'est dire du bien. Et c'est faire du bien. Voilà comment on pourrait résumer le mot bénir. Prier, dire du bien et faire du bien. C'est important que vous le sachiez. Je veux bénir. Je m'endormirai ce soir en bénissant. Je me lèverai demain matin en bénissant. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je m'imposerai de bénir et le Seigneur y vous bénira. Vous êtes d'accord avec cette parole? Vous croyez que c'est peut-être, vous dites, mais monsieur Gosset, c'est trop simple votre exhortation. Moi, je voudrais de la théologie à 3 étages. Écoutez-moi bien. Commençons par des choses toutes simples. Moi, je veux bénir. Je veux bénir mon foyer. Je veux bénir mes enfants. Je veux bénir l'église. Vous verrez, vous le vérifierez. Vous ne le croyez pas? Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce que vous avez envie de l'expérimenter? Est-ce que vous avez envie de l'expérimenter davantage? Que peut-être déjà vous l'expérimentez. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré l'apôtre Pierre pour que tous les chrétiens sur la surface de la terre, à travers des siècles, sachent que ou on bénit, ou on maudit. Si vous maudissez, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez, je le répète, Seigneur bénis-moi. Il y a des gens qui sont tous, Seigneur bénis-moi Seigneur. Et ça sert à rien. Seigneur, fais-moi grâce, accorde-moi ceci. Vous n'aurez rien. Si vous vous mettez à bénir, à accepter toutes les formes d'adversité, Seigneur, moi je m'en remets à celui qui juge justement. Je te laisse t'occuper de tout. Tu le feras certainement un peu mieux que moi. Parce que si vous vous en occupez, Dieu ne le fera pas. Mets en lui ta confiance et il agira. Bien sûr, vous pouvez prier. Si vous n'avez pas confiance, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, cette prédication ne servira à rien du tout. À rien du tout. Rien du tout. Comme de l'eau qu'on a mis dans un vase percé, ça ne sert à rien. Vous dites, oui, c'est intéressant, oui, ça m'a fait un peu de bien. Ça servira en vérité à rien. Mais si vous dites, moi je vais obéir, je vais reprendre ces textes, je les ai marqués, je me mettrai à genoux demain matin dans mon bureau, avant de partir au travail, avant de partir, je ne sais pas, n'importe où, je me tiendrai devant toi et je vais bénir. Et vous le vérifierez. Vous le vérifierez. C'est sûr. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Gloire à Dieu. On ferme les yeux et on demande au Seigneur de nous aider. Parce que si Dieu m'a mis à cœur ce texte, c'est que certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien du tout. Et que vous devez dire, mais Seigneur, il faut que je revoie toute ma façon de me comporter. Je suis un chrétien de nom. Je t'honore des lèvres, mais mon cœur est éloigné de moi. Et je suis sûr qu'au milieu de nous, il y a des gens qui maudissent une situation, qui rendent le mal pour le mal. Je vous assure, c'est même plus la peine que vous priez, à part pour demander pardon. Et ce soir, il y a des prières que Dieu n'écoutera pas. La seule prière qu'il écoutera, Seigneur, pardon. Pardon, je vais obéir à ce que j'ai entendu ce soir. Tu m'as conduit dans ce lieu de culte, tu m'as conduit dans ton église. Moi, je peux obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous te bénissons, Seigneur, oui. Nous te bénissons pour tous les projets que tu as. Nous te remercions pour toute ta puissance qui a le pouvoir d'aplanir toutes les montagnes. Si toi, tu n'as rien dit, lorsque tu étais maltraité, injurié, tu nous as donné cet exemple pour nous montrer que nous étions appelés à la même chose, eh bien nous aussi, Seigneur, nous voulons apprendre à nous en remettre à ce grand juge, Seigneur, qui s'occupera de tout cela. Nous voulons demander ton aide aussi pour apprendre à bénir tous les gens qui nous entourent, que ce soit des frères, que ce soit des sœurs, que ce soit des inconvertis, que ce soit des gens méchants, nous voulons bénir, Seigneur. Conformément à ce que tu nous as montré ce soir. Nous voulons la bénédiction, non pas pour notre autosatisfaction, mais nous la voulons parce que c'est ta volonté que nous soyons bénis. C'est ta volonté que nous avancions dans les voies que tu as préparées, dans les projets que tu as de paix. Nous voulons bénir cette ville, nos familles dans lesquelles tu nous as placés, cette assemblée dans laquelle tu nous as placés, les frères et les sœurs qui sont à côté de nous. Seigneur, pardon d'avoir tant et tant de fois écouté l'accusateur à la place d'écouter ce grand Dieu qui a dit que si nous marchions dans la vérité, nous serions entièrement libres. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.